Bonjour, aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Bel âge, l'actualité. Au programme, excentrique pour rééquilibrer le corps en douceur. Douleur articulaire et les couleurs de José Di Stasio. Bonne écoute.
Excentrique, pour rééquilibrer le corps en douceur. Un texte de Christine Fortier, paru dans le magazine Bel Âge. Faut-il vraiment suer sang et eau pour se mettre en forme? Pas du tout. La preuve, avec Excentrique, un programme d'entraînement qui s'apparente à la danse et au pilates, on se fait du bien, et ce, sans avoir à réaliser des prouesses. Fiou! La méthode excentrique, qui gagne en popularité depuis une dizaine d'années, a été créée il y a près de 25 ans à Montréal par Miranda Esmond White. À l'époque, l'ancienne danseuse de ballet professionnel était propriétaire d'un studio d'entraînement et donnait des cours de conditionnement physique en plus d'étudier le tai chi. Au fil du temps, elle a incorporé l'ensemble de ces disciplines dans un programme intégré. À force d'entendre les gens lui dire à quel point il se sentait mieux, elle a réalisé qu'il se passait quelque chose, raconte Vae Yegoyan, instructeur excentrique certifié niveau 4 au Centre Mouvement Humain et au Studio des Grands Ballets Canadiens. Pour développer son programme de mise en forme et en amplifier les effets sur le corps, Miranda Esmond White a travaillé de façon scientifique avec des médecins et des physiothérapeutes. Par la suite, elle a décidé de l'enseigner sous le nom d'excentrique. De nos jours, il y a entre 2000 et 3000 professeurs dans le monde, mentionne Vae Yegoyan. Objectif : être bien dans son corps. Nancy Truchon a pratiqué la méthode excentrique pendant une session au centre sportif qu'elle fréquente. Je suis assez en forme, dit-elle, alors je trouvais ça facile. J'ai arrêté d'en faire quand tout a fermé à cause de la COVID-19 et j'en ai ressenti les effets car j'ai perdu de la flexibilité, affirme celle qui considère excentrique comme un bon moyen d'améliorer la flexibilité et la posture, à l'instar du Pilates. Dans la société moderne, on est souvent déconnecté parce qu'on est toujours occupé à atteindre quelque chose, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou familiale. Excentrique permet de se recentrer et de se connecter davantage à notre réalité physique. Pendant le cours, on travaille tous les muscles, les articulations et les tissus conjonctifs grâce à des routines créées pour rééquilibrer toutes les parties du corps. L'entraînement met l'accent sur la contraction pendant la phase d'allongement du muscle afin de le renforcer et de l'étirer simultanément. Les exercices se font debout, au sol, sur un tapis de yoga, et à la barre ou à l'aide d'une chaise. Une pratique régulière permet entre autres de tonifier la silhouette, d'augmenter la flexibilité et l'agilité, d'améliorer la posture, de prévenir les blessures et de réduire les douleurs chroniques. Vae Yegoyan est bien placé pour en parler. Quand j'ai découvert la méthode excentrique, je ressentais énormément de douleurs causées par la pratique d'autres sports, et cette pratique m'a été bénéfique. La douleur n'est pas toujours absente, mais je fonctionne mieux qu'avant. Je dis toujours aux gens que c'est une bonne façon de prendre soin de soi. Comment ça se passe? Une séance de 50 à 60 minutes se déroule au son de la musique et commence par un échauffement de quelques minutes suivi de mouvements dynamiques en position debout. Les 20 dernières minutes se passent au sol sur un tapis d'entraînement généralement prêté par le studio. Durant le cours, on effectue des mouvements fonctionnels de la vie de tous les jours qu'on a peut-être délaissés, précise Vae Yegoyan. Ainsi, lorsqu'on tend le bras vers le haut et ensuite vers l'arrière, l'objectif est de nous permettre par la suite d'atteindre des objets placés en hauteur, de bercer nos petits-enfants ou de soulever notre animal de compagnie, si on en est capable. Une activité pour tous. Selon l'instructeur, l'excentrique s'adresse à tout le monde. Je travaille avec des athlètes, des danseurs et des élèves de 7 à 85 ans. Souvent, les gens sont nerveux quand ils arrivent dans ma salle de cours parce que c'est leur première fois ou qu'ils ne sont pas sportifs. Je leur réponds que je suis content qu'ils soient là, que je vais les guider et qu'ils n'ont qu'à faire de leur mieux. On n'est pas là pour la performance. Néanmoins, les personnes ayant une blessure devraient d'abord demander à leur médecin ou physiothérapeute s'ils peuvent faire les exercices. Il est également important d'en informer le professeur avant la séance pour qu'il puisse s'ajuster aux besoins. Pour sa part, Vae Yegoyan n'a jamais enseigné à des gens à mobilité réduite, mais cela se fait. Pour trouver un professeur qualifié, il suggère de visiter le site eccentrique.com qui est doté d'un engin de recherche permettant de trouver un instructeur ou un cours près de chez soi. Bon à savoir. Avant de s'inscrire à un cours, c'est une bonne idée de communiquer avec l'instructeur pour lui demander à quoi s'attendre durant la séance. Les enchaînements de mouvements sont-ils lents, dynamiques, doux? Chaque professeur d'excentrique a son style, qui varie selon son expérience ou ses compétences dans d'autres disciplines, yoga, pilates, pleine conscience, etc. Durant le cours, on suggère aux participants de porter des vêtements confortables et de rester pieds nus. Les personnes qui préfèrent enfiler des chaussettes devraient choisir des modèles antidérapants. Les prix varient d'un studio à l'autre, mais on peut s'attendre à payer 20 $ pour un cours sans inscription et 15 $ pour une séance d'essai. Les forfaits de plusieurs séances sont plus économiques, tout comme les cours en ligne. Dans ce dernier cas, il faut se procurer un tapis d'entraînement. 4 niveaux. Il existe 4 niveaux de formation excentrique. Le professeur de niveau 1 possède les compétences et habiletés de base pour donner des cours de groupe au grand public. Au niveau 2, il est en mesure d'adapter les mouvements si les clients en ont besoin. Les niveaux 3 et 4 sont plus approfondis et thérapeutiques et permettent aux instructeurs de s'adapter à la clientèle ayant des blessures ou des incapacités. C'était « Excentrique pour rééquilibrer le corps en douceur », un texte de Christine Fortier paru dans le magazine Bel Âge.
Douleur articulaire. Est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite? Un texte de Kathleen Couillard, paru le 11 avril 2023 dans l'actualité. Douleur, raideur et diminution de la mobilité. Les symptômes de l'arthrose ressemblent à ceux de plusieurs autres maladies arthritiques. Comment peut-on les distinguer? L'arthrose a beau toucher 3,9 millions de Canadiens et être responsable de bien des douleurs aux genoux et aux hanches, ceux qui ont mal la confondent encore souvent avec d'autres problèmes articulaires. cette maladie chronique s'installe progressivement. Les symptômes se manifestent d'abord à l'occasion, puis, si rien n'est fait, ils peuvent être de plus en plus fréquents et perturber le fonctionnement quotidien des personnes qui en souffrent. Qu'est-ce que l'arthrose? L'arthrose est la destruction progressive du cartilage qui se trouve à l'intérieur d'une articulation entre les os. Le cartilage est une membrane élastique qui sert à protéger les extrémités osseuses et à lubrifier l'articulation, précise Benjamin Rondeau, physiothérapeute à la clinique du pavillon de l'éducation physique et des sports, PEPS, de l'Université Laval. Le cartilage peut s'user avec le temps, mais l'arthrose dépasse l'usure normale. Bien des gens vieillissent d'ailleurs sans connaître de symptômes d'arthrose. La maladie apparaît quand le corps n'arrive plus à réparer les dommages qui se produisent inévitablement aux articulations, soit parce que le corps ne suit plus le rythme, soit parce que la quantité de tissu à réparer est trop grande. Dans la plupart des cas, ce type de dommage survient lorsque les articulations sont soumises à des charges lourdes pendant une longue période, explique la Société de l'arthrite du Canada. L'arthrose peut aussi apparaître à la suite d'une blessure, par exemple une petite déchirure du ménisque du genou, un morceau de cartilage en forme de croissant qui permet au genou de bien plier, peut créer de l'inflammation et déclencher ensuite la dégénérescence du cartilage, illustre la docteure Véronique Godbout, chirurgienne orthopédique et présidente de l'Association d'orthopédie du Québec. Encore une fois, si le corps n'est plus en mesure de le réparer, l'arthrose s'installe. Cette dernière peut toucher n'importe quelle articulation. Cependant, les genoux, les hanches, les gros orteils, les mains et la colonne vertébrale sont plus souvent atteints. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, en 2016-2017, plus de 80% des patients qui ont subi une opération de remplacement de la hanche souffraient d'arthrose. Pour les remplacements du genou, c'est 98%. Qu'est-ce que l'arthrite? Les mots arthrose et arthrite sont parfois utilisés de façon interchangeable. Arthrite est en fait un terme très général qui désigne toutes les formes d'inflammation des articulations, remarque la docteure Godbout. Cela inclut donc l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et plusieurs autres types d'arthrite. L'arthrite regroupe ainsi plus de 100 maladies caractérisées par l'inflammation des articulations et d'autres parties du corps, selon la Société de l'arthrite du Canada. L'arthrose est toutefois la forme la plus courante. Pour les autres types d'arthrite, il s'agit souvent de maladies auto-immunes, ajoute la docteure Godbout. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, les cellules du système immunitaire attaquent certaines portions de l'articulation, comme la membrane synoviale qui recouvre l'intérieur des articulations. Elles déclenchent alors un processus inflammatoire qui dégradera progressivement tous les composants de l'articulation. Les formes d'arthrite inflammatoire se distinguent donc de l'arthrose par le fait que c'est l'inflammation plutôt que l'usure du cartilage qui provoque les problèmes articulaires. Il faut toutefois se rappeler qu'un type d'arthrite n'exclut pas l'autre, souligne la docteure Godbout. Par exemple, une personne peut avoir à la fois de l'arthrose et de l'arthrite rhumatoïde. Vous écoutez, douleur articulaire, est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite? Un texte de Kathleen Couillard paru le 11 avril 2023 dans l'Actualité. Quelles sont les autres maladies qui peuvent ressembler à l'arthrose? Certains types d'arthrite peuvent présenter des symptômes très semblables à ceux de l'arthrose. C'est notamment le cas de la polyarthrite rhumatoïde et de la goutte. La polyarthrite rhumatoïde touche souvent plusieurs articulations simultanément, des deux côtés du corps, explique la docteure Godbout. Elle affecte généralement les petites articulations comme celles des mains, des poignets et des doigts. Au contraire, l'arthrose touche davantage les grosses articulations comme les genoux ou les hanches et habituellement d'un seul côté. La goutte est quant à elle une maladie qui se déclenche lorsque de l'acide urique s'accumule dans le sang. Cette substance provient de la digestion de certains aliments contenant des purines, un composant de l'ADN. On en retrouve dans la viande rouge, les abats, les mollusques, les crustacés, certains poissons et le sirop de maïs. Des cristaux d'acide urique se forment alors dans les articulations et provoquent de l'inflammation, précise la Société de l'arthrite du Canada. À quels symptômes reconnaît-on qu'il s'agit d'arthrose? Selon la Dr. Godbout, les symptômes de l'arthrose et des autres formes d'arthrite se ressemblent. Si vous en souffrez, vous ressentez peut-être de la raideur et de la douleur aux articulations, en particulier au réveil. Vous avez peut-être aussi observé un gonflement de vos articulations. C'est le frottement des os dû à la détérioration du cartilage qui cause ces symptômes. Cependant, le niveau d'usure du cartilage ne détermine pas la sévérité de la douleur, précise Benjamin Rondeau. Des gens peuvent avoir beaucoup d'arthrose et peu de douleur, alors que pour d'autres, c'est l'inverse. Le physiothérapeute remarque aussi que les personnes qui souffrent d'arthrose modifient leur façon de bouger pour se protéger de la douleur. Ce comportement peut provoquer une perte de mobilité. Par exemple, une personne avec de l'arthrose au genou aura de plus en plus de difficultés à le plier ou à le déplier. Qui est le plus susceptible de souffrir d'arthrose? Le risque d'arthrose est plus grand chez les personnes plus âgées. On observe que 22% des Canadiens âgés de 60 à 64 ans sont touchés et 52% des 85 à 89 ans. La fréquence est aussi plus élevée chez les femmes et dans les familles où il y a un historique d'arthrose. Le surpoids augmente également le risque puisqu'une pression supplémentaire s'exerce alors sur les articulations. De plus, les tissus graisseux peuvent libérer des substances qui accroissent l'inflammation, souligne la Société de l'arthrite du Canada. Par ailleurs, un faible niveau d'activité physique accentue le risque, puisque cela réduit la force musculaire et la flexibilité. Il y a aussi beaucoup de facteurs biomécaniques, ajoute Benjamin Rondeau. Par exemple, une personne qui a subi une blessure dans le passé est plus susceptible de présenter une usure du cartilage à long terme en raison du changement de pression à l'intérieur de l'articulation. Certains métiers ou certains sports de haut niveau augmentent donc le risque d'arthrose. Comment est-ce diagnostiqué? Il n'existe pas de test de dépistage particulier pour l'arthrose. Le diagnostic est plutôt posé en fonction des symptômes et de l'examen physique de l'articulation touchée. Le physiothérapeute est une bonne ressource de première ligne pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, note Benjamin Rondeau. Il pourra vérifier d'où vient la douleur et s'il y a des choses à corriger dans le quotidien. Cependant, si la douleur est importante et qu'il y a une grande perte de mobilité, une radiographie permettra de connaître la gravité de l'état. Le médecin sera alors la personne à consulter. En effet, la radiographie aide parfois à distinguer l'arthrose des autres types d'arthrite. Par exemple, la présence de certains agrégats au niveau de la membrane synoviale est caractéristique de certains types d'arthrite, explique la Dr. Godbout. Au contraire, la présence d'excroissance osseuse appelée ostéophyte est plutôt associée à l'arthrose. Les radiologistes disposent donc de critères pour soupçonner de l'arthrose ou un autre type d'arthrite. Lorsque les signes d'arthrose sont visibles à la radiographie et que des symptômes sont présents, douleur, raideur, inutile de passer une imagerie par résonance magnétique IRM pour tirer des conclusions, souligne l'Association canadienne d'orthopédie. Enfin, si le médecin soupçonne la polyarthrite rhumatoïde, des prélèvements sanguins permettent de mesurer la présence dans le sang de certaines molécules caractéristiques de cette maladie. Cette information, combinée aux résultats de l'examen physique et de la radiographie, pourra aider le médecin à établir le bon diagnostic. C'était douleur articulaire. Est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite? Un texte de Kathleen Couillard, paru le 11 avril 2023 dans l'actualité.
Les couleurs de José Di Stasio. Un texte de Caroline Anne Boileau, paru dans le magazine Bel Âge. La pandémie n'a pas ralenti d'un iota la figure culinaire tant aimée des Québécois, José Di Stasio. De sa cuisine, elle a livré dans la dernière année deux impressionnantes fournées, ses carnets de saison. Elle raconte son processus de création et dévoile de savoureuses anecdotes. De quoi dire? Encore. José Di Stasio cuisine simplement, humblement, mais toujours avec les meilleurs ingrédients. Ce n'est pas pour rien que ses deux derniers opus mettent de l'avant les aliments locaux et de saison. C'est quand ils sont tout juste cueillis qu'ils sont à leur summum, qu'ils insufflent fraîcheur et saveur au plat. Cela dit, il n'y a pas que le calendrier de récolte qui l'inspire. Souvent, mes livres naissent à partir d'une couleur. Avant même de commencer mon livre automne hiver, je savais qu'il y aurait des couleurs de caramel, de cannelle, de carie, de chocolat, des orangés, des ocres. Le livre me permet de créer une ambiance, un peu comme si j'emballais mes recettes. Ça leur donne une âme, une personnalité. Chef d'orchestre. Beaucoup de gens savent que José développe elle-même ses recettes, mais peu sont au courant qu'elle assure aussi la direction artistique de ses ouvrages. C'est même elle qui déniche la vaisselle qu'on aperçoit sur les images. J'apporte encore mes propres accessoires. Je vais aussi en chercher un peu en magasin pour renouveler, mais je reste toujours dans la palette et dans le style que j'aime. Les journées de photos restent encore ma partie préférée du processus de création d'un livre. Pour elle, la portion la plus laborieuse demeure la standardisation. C'est cette étape qui fait en sorte que la recette est un succès ou non. C'est très technique car il faut tout calculer. Mais c'est ici que la confiance des gens se gagne. Je serais très malheureuse si quelqu'un ne réussissait pas une de mes recettes parce qu'il manquerait un détail. Je dois rendre la cuisine accessible et la démocratiser. Tester et approuver. Les confinements ont été des occasions en or pour développer et peaufiner quelques-unes des recettes de ses carnets de saison. Est-ce que José, à l'instar de nombreux Québécois, s'est projeté dans la création de pain et de croissants maison, voire de kombucha, durant ces périodes éprouvantes? Non. Je me suis d'abord lancé dans la création d'un nouveau pain aux bananes parce qu'il y avait une demande pour ça. Celui-là, je ne le voulais pas trop sucré, avec un peu de poudre d'amande dans l'appareil et des graines sur le dessus. Il a vraiment tiré fort sur mon site web, je l'ai d'ailleurs mis dans le livre. Moi, mon dada, durant la pandémie, ça a vraiment été les bouillons de légumes et de poulet et les biscuits. mes amis m'ont fait remarquer que je n'en avais jamais fait autant. Les biscuits apportent du réconfort, surtout en hiver. J'en avais tout le temps dans une boîte. Ce n'est donc pas un hasard si plusieurs de ces nouvelles expérimentations ont atterri dans le livre. Elles sont le reflet de son quotidien à ce moment-là. José carbure au feeling. Elle crée à son rythme ce qui la rend vibrante et authentique. Pas étonnant que sa cote d'amour soit si élevée auprès de son public. À sa manière. Sa carrière, José avoue l'avoir menée un peu au gré du vent. Je n'ai jamais suivi un plan tracé. J'étais travaillante et j'étais prête à travailler beaucoup, mais je me suis toujours laissée porter. Entre les mandats, elle se dépose, réfléchit et mûrit des idées. Avant de se lancer dans un nouveau projet, elle doit le sentir dans ses tripes. Après un automne fort occupé, ponctué de la sortie du carnet de saison automne-hiver et du tournage d'une émission anniversaire pour célébrer les 20 ans d'Alla Distasio, José profite de l'accalmie pour analyser les nombreux projets qui sont dans l'air, pour voyager et s'inspirer. J'ai cette chance, et j'en suis bien consciente. C'était « Les couleurs de José Distasio », un texte de Caroline-Anne Boileau, paru dans le magazine Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.